Merci à vous qui nous rejoignez sur France Culture. C'est l'heure du journal de Rosalie Lafarge. Bonjour Rosalie.
Bonjour à tous. L'ultimatum expire au Venezuela. Juan Guaido va tout tenter aujourd'hui pour faire passer l'aide humanitaire dans son pays. Mais pour lui compliquer encore un peu plus la tâche, l'armée, fidèle au régime de Nicolas Maduro, vient de fermer la frontière colombienne.
120 000 bureaux de vote doivent ouvrir ce matin au Nigeria, une semaine après un report surprise. Les habitants sont appelés à choisir leur président parmi 73 candidats.
Notre président Emmanuel Macron et lui, porte de Versailles à Paris. Il inaugure le salon de l'agriculture dans une ambiance un peu plus sereine que les années précédentes, vous l'entendrez. À suivre également dans ce journal, Clermont-Ferrand bouclé à l'approche d'une manifestation des Gilets jaunes. Et puis l'émotion de Xavier Legrand, dont le premier long métrage Jusqu'à la garde décroche le César de meilleur film. Et dans la deuxième heure des matins, votre invité Caroline Brouet.
Il vient tout juste de s'installer dans le studio. Il est professeur de sciences politiques. Il s'appelle Loïc Blondiot. Il est spécialiste des questions de démocratie et notamment participative. On va donc lui demander comment on sort de cette impasse démocratique aujourd'hui.
Il a promis de faire entrer l'aide humanitaire au Venezuela aujourd'hui. Juan Guaido sera-t-il en mesure de tenir cette promesse? Les choses se compliquent ce matin avec la fermeture annoncée de la frontière colombienne dans la zone de Cúcuta. Là, précisément, où hier soir, des centaines de milliers de personnes ont assisté à un concert géant pour demander au gouvernement de Nicolas Maduro de laisser passer cette aide humanitaire. À Cúcuta, Benjamin Eli.
Sur une chanson qui donne de l'espoir, Richard Branson s'est présenté. Le milliardaire britannique, l'organisateur, a salué la foule à la fin du concert et scandé ce mot.
Liberté !
Repris par le public rouge, bleu, jaune, aux couleurs du Venezuela.
Liberté !
Liberté !
Liberté !
Libre de laisser entrer l'aide humanitaire, c'est ce que voudraient ces Vénézuéliens rassemblés. Message martelé également par plusieurs présidents qui ont fait le déplacement du Chili, du Paraguay ou d'à côté.
Señor Duque !
Iván Duque, le président colombien. Mon message, c'est que la dictature touche à sa fin. Le peuple vénézuélien veut la liberté. Le peuple vénézuélien s'est exprimé, il dit stop à cette dictature. Aujourd'hui, il y a un président légitime, Juan Guaido, une institution légitime, l'Assemblée nationale. Ce que nous voulons, c'est que l'aide humanitaire arrive, que les militaires se placent du bon côté de l'histoire, avec le rétablissement de la démocratie. Il arrive. Juan Guaido, le président, par intérim autoproclamé, il a franchi la frontière, bravé l'interdit chaviste. Et il a pris la parole en fin de journée devant un entrepôt, devant les stocks de médicaments, de nourriture venus des États-Unis. La question est de savoir comment nous sommes arrivés jusqu'ici aujourd'hui, alors qu'ils ont interdit l'espace aérien, toutes sortes de navigations maritimes, ils ont mis des obstacles sur les routes. Ils ont tiré sur des députés qui tentaient de rejoindre la frontière avec les caravanes de volontaires. Mais si nous sommes ici, c'est précisément parce que les forces armées nous ont aidés dans ce processus. C'est la vérité. Merci au peuple du monde d'avoir ouvert la porte de la liberté au Venezuela. Mais pour faire entrer l'aide humanitaire, il faudra encore ouvrir une porte, ouvrir la frontière. Les ponts qui relient la Colombie et le Venezuela sont fermés. Nicolas Maduro n'a pas l'intention de laisser l'autre président poursuivre sa marche en avant.
Benjamin Illy, envoyé spécial de France Culture à Cúcuta, à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Les bureaux de vote doivent ouvrir au Nigeria. Plus de 80 millions de personnes sont appelées à choisir leur président. Un scrutin reporté la semaine dernière pour des raisons logistiques et des craintes au niveau de la sécurité. Mais l'opposition, Claude Guibal, dénonce une tentative de sabotage.
Certains avaient déjà fait le voyage des centaines voire des milliers de kilomètres pour aller voter chez eux la semaine dernière, avant d'apprendre quelques heures à peine avant l'ouverture des bureaux de vote, le report de l'élection. Pour l'opposition nigériane, il ne fait aucun doute que c'est pour dissuader les électeurs que des prétextes peu convaincants ont été évoqués pour reporter cette élection d'une semaine. En tout, les Nigérians doivent faire leur choix entre 73 candidats. En réalité, c'est un duel qui s'annonce entre Muhammadu Buhari, le président sortant, ancien militaire de 76 ans, et face à lui, l'homme d'affaires Atiku Abubakar, 72 ans. Leurs partis respectifs, l'APC et l'ADP, se disputent le pouvoir depuis des lustres et pour les Nigérians, c'est le signe que rien ne changera, alors qu'une des préoccupations majeures de cette élection dans ce géant africain, c'est la lutte contre la corruption. Avec 190 millions d'habitants, le Nigeria était la première puissance économique du continent grâce à ses richesses pétrolières, mais la chute du prix du pétrole en 2016 a fait dévisser l'économie. Les électeurs reprochent à Muhammadu Buhari de ne pas avoir su réagir efficacement. Il avait été aussi élu sur sa promesse d'éradiquer Boko Haram. Or, la situation est bien loin d'être réglée, avec des attaques qui n'ont fait que se multiplier alors que les conflits intercommunautaires flambent aussi dans le centre du pays.
Claude Guibal, et on l'apprend ce matin, plusieurs explosions auraient été entendues par des habitants à Maïdougouri. C'est dans le nord-est du Nigeria. Ce serait arrivé tout à l'heure, peu de temps avant l'ouverture des bureaux de vote. Le mea culpa cinglant et douloureux de l'Église. Le sommet sur la protection des mineurs se poursuit jusqu'à demain au Vatican. Dès hier, la hiérarchie de l'Église catholique a appelé ses membres à reconnaître leurs responsabilités individuelles et collégiales dans son échec à protéger les enfants des abus sexuels du clergé. Et Kim Jong-un va se rendre au Vietnam. Une visite officielle prévue dans les prochains jours, annonce Hanoï ce matin. Hanoï où le leader nord-coréen doit rencontrer Donald Trump cette semaine.
Emmanuel Macron est en ce moment porte de Versailles à Paris. Le président inaugure ce matin le salon de l'agriculture. Il doit prononcer un discours dans une demi-heure.
Et si c'est normalement à la fin de la foire qu'on fait les comptes, porte de Versailles, on table déjà sur 650 tonnes de fumier. Voilà ce qui sera produit pendant les 9 jours du salon de l'agriculture. Il ouvre effectivement ses portes ce matin, dans une heure pour le public. Et le contexte est peut-être un petit peu moins tendu que les années précédentes, Anne-Laure Chouin.
Si l'hémorragie des agriculteurs continue, elle a nettement diminué en 2018, mettant fin à plusieurs années d'une crise violente qui avait vu des centaines d'exploitations disparaître et autant d'agriculteurs mettre la clé sous la porte. Leur revenu a augmenté l'année dernière de 28% environ, ce qui ne signifie pas que les agriculteurs français gagnent désormais bien leur vie, mais plutôt que leur revenu moyen était tombé très bas et qu'il reprend un peu de couleur. 2018 a été plus clémente en termes de catastrophes naturelles, mais les aides européennes ont mis du temps à arriver. Bref, le monde agricole se remet lentement et si la défiance des agriculteurs envers les pouvoirs publics n'est plus de mise, la confiance est tout de même loin d'être retrouvée. Les effets de la loi alimentation vont devoir être examinés à la loupe et notamment ceux des ordonnances qui encadrent les promotions dans la grande distribution et relèvent le seuil de revente à perte. Vont-ils réellement profiter aux agriculteurs en répartissant plus équitablement la valeur des produits achetés, c'est trop tôt pour le dire. Ce qui apparaît en revanche, c'est que les négociations annuelles commerciales qui se terminent à la fin du mois et au cours desquelles la distribution, l'industrie et les agriculteurs fixent les prix d'achat et de vente de leurs produits, ces négociations se passent relativement bien, à part quelques frictions sur le prix de la viande. Le ministère de l'Agriculture a promis d'y porter une attention toute particulière et ne s'est pas interdit de mettre la pression sur la grande distribution.
Anne-Laure Chouin, et pour mieux connaître la qualité nutritive de ce qu'on mange, l'Assemblée nationale fait confiance au Nutri-Score. Les députés adoptent, sur proposition de la France insoumise, la présence obligatoire de cet indicatif de couleur sur les publicités pour l'alimentation, Maxime Fayol.
L'apparition du Nutri-Score est la seule petite victoire pour le groupe des Insoumis. Ce barème apparaîtra sur les publicités pour les produits et non sur les emballages eux-mêmes. De nombreux fabricants ne sont en effet pas favorables à cette mesure. Signe que le lobby agroalimentaire est plus fort que les enjeux nutritionnels pour le député La France Insoumise à l'origine du texte, Loïc Prud'homme.
Il suffit d'entendre les mots qui sont prononcés par les députés de la majorité et qui nous disent « Ah oui, mais... » J'ai entendu, j'ai écouté les industriels qui me disent que ça n'est pas possible, que l'information suffit, que les engagements volontaires vont fonctionner. Et, bah, c'est se moquer de nous et c'est bien sûr derrière la patte de ces puissances financières qui nous disent en fait bah, continuer à nous faire manger n'importe quoi pour continuer à enrichir n'importe qui.
Les députés ont repoussé de nombreuses dispositions et notamment celles qui visaient à interdire la publicité ciblée sur les jeunes publics pour les aliments trop gras ou trop sucrés. Une décision dénoncée par Megan Gorbani de l'ONG Foodwatch.
Il y a quand même deux volets pour une alimentation saine. Un, c'est d'avoir accès à la transparence. Mais deux, c'est de réguler là où on voit que certains industriels ont des pratiques irresponsables. Et c'est là où on n'a pas été assez loin pour réguler et encadrer le marketing qui cible les enfants. Et c'est ce qu'on regrette, nous, chez Foodwatch.
Autre disposition sur la santé qui n'a pas été adoptée par l'Assemblée, la limitation de la liste des additifs dans les aliments ultra transformés, notamment le sucre, le sel et les acides gras.
Maxime Fayolle sur France Culture.
France Culture, justement, il est 8h10, suite du journal de Rosalie Lafarge. Ils étaient un peu plus de 40 000 samedi dernier. Combien aujourd'hui les Gilets jaunes se retrouvent pour un 15e week-end de mobilisation?
Et la grande manifestation est cette fois attendue à Clermont-Ferrand. La ville s'attend à voir arriver près de 3 000 personnes et déploie du coup un dispositif de sécurité exceptionnel. Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc est la préfète du Puy-de-Dôme.
La liberté de manifester est un droit que nous garantissons, mais elle a des limites. La limite, c'est notamment l'ordre public. Cette manifestation n'est pas déclarée. Déclarer une manifestation, c'est donner des informations, faire en sorte que cette manifestation soit sécurisée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je ne sais pas le parcours, je ne sais pas la façon dont cette manifestation va se dérouler. Au vu des informations dont nous disposons, nous craignons la présence de casseurs, la présence de personnes qui viennent se confronter aux forces de l'ordre, qui viennent commettre des dégradations. Donc nous devons être en mesure de faire face à cette situation-là.
Au-delà de Clermont-Ferrand, d'autres rassemblements sont annoncés. À Paris, en fin de matinée, sur les Champs-Élysées, par exemple, ou encore devant le château de Chambord, où un pique-nique est organisé. Comme un pied de nez à Emmanuel Macron, qui a fêté ses 40 ans. Loïc Blondiot est donc avec nous, professeur de sciences politiques. 41 000 personnes dans les rues le week-end dernier. On est loin des quasi 300 000 du début du mouvement. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers la fin de ce mouvement?
Alors la vraie surprise, c'est qu'effectivement le mouvement perdure, c'est-à-dire qu'il est toujours là, à des niveaux bien moindres hein, dans les rues que au début du mouvement, mais en même temps, si on regarde les enquêtes d'opinion, on assiste aussi à une sorte de repli des opinions favorables au mouvement, mais qui sont pas spectaculaires. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est quand même la durabilité et l'influence que continue de peser ce mouvement, alors même que dans les rues il y a aussi peu de monde. C'est-à-dire qu'il est toujours là, il est toujours présent, et beaucoup de discours, beaucoup d'actes, toute la vie politique finalement tourne autour de lui, et là il y a quelque chose d'assez énigmatique.
Ce qui est aussi marquant dans ce mouvement, notamment le week-end dernier, ce sont les violences qui existent depuis le début. Est-ce que vous sentez que le mouvement se radicalise?
Alors, bon, ça c'est... Alors, parler de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, compte tenu de l'hétérogénéité, compte tenu de la dispersion et de la fragmentation de ce mouvement. Oui, certes, clairement, mais là encore, il me semble que on peut pas parler de montée expansionnelle de la violence. Oui, il y a des violences résiduelles, mais on n'a pas affaire à une sorte de radicalisation extrême de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes.
Loïc Blondiot, merci beaucoup, professeur de sciences politiques et spécialiste de la démocratie participative. On vous retrouve avec Caroline Brouet après ce journal. Eux se mobilisent dans un tout autre cadre. Les habitants d'Héry-Moncourt, près de Montbéliard, dans le Doubs, organisent une journée ville morte aujourd'hui. Une façon de protester contre la fermeture annoncée de l'usine PSA qui emploie sur place un peu plus de 200 personnes. Le triomphe de Jusqu'à la garde, le premier long métrage de Xavier Legrand, décroche 4 Césars et pas des moindres. Meilleur film, meilleure actrice pour Léa Drucker, meilleur montage, meilleur scénario original. Et quel scénario? Le film s'attaque au lourd sujet des violences conjugales. Son réalisateur n'a pas manqué de le rappeler hier soir.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'écrire ce scénario, qui m'ont ouvert la porte, c'est-à-dire les juges, le CIC, police, secours de Bobigny, et aussi les victimes de violences conjugales, et les adultes qui ont été des enfants, qui ont vécu avec des parents, où la violence conjugale a été quotidienne. Ce César, du coup, j'ai envie de leur dédier parce que quand on a tourné le film en 2016, il y avait 123 femmes qui ont été assassinées par leurs conjoints et ex-conjoints. Depuis le 1er janvier 2019, 25 femmes ont été assassinées, ce qui veut dire qu'on est passé d'une femme tous les deux jours, alors qu'en 2016, c'était une tous les trois jours. Je ne veux pas plomber la soirée, mais je pense qu'il serait temps de penser à ces victimes un autre jour que le 25 novembre. Merci.
25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'émotion de Xavier Legrand sur Canal+, hier soir. L'autre favori de la soirée, Le Grand Bain, ne repart qu'avec une seule récompense sur les 10 possibles, celle de meilleur second rôle masculin pour Philippe Catherine. Et puis c'est Alex Lutz qui décroche la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans son propre film, Guy. Ok pour l'amarrage à la Station Spatiale Internationale. La NASA valide le lancement de la nouvelle capsule SpaceX. Essai grandeur nature crucial prévu samedi prochain avec un mannequin avant un vol habité dans plusieurs mois. Le temps pour aujourd'hui dans l'ensemble, c'est encore bien ensoleillé et doux pour un 23 février, mais quelques nuages quand même ce matin sur la moitié nord, plutôt en fin de journée pour le sud. Les températures tourneront autour des 15 degrés cet après-midi.